Bienvenue sur Vers ma vie, votre émission bien-être en podcast. Si vous pensez que vous avez tout pour être heureuse mais que le moral ne suit pas, si vos douleurs au ventre vous empêchent de bouger, de vous régaler comme vous le souhaiteriez, si vous aimeriez profiter de la vie que vous avez construite et vous accepter enfin tel que vous êtes, dans le corps et la tête que vous avez, alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Alice, je suis coach bien-être certifiée et je peux vous aider à donner du sens à votre vie, à vous libérer de vos maux et à briller dès aujourd'hui. Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Personnellement, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de Vers ma vie absolument palpitant. Si vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière, 26, donc le numéro 26, d'où viennent nos habitudes ? Je vous invite à prendre connaissance de cet épisode dès maintenant. Car pour briser une habitude, il est nécessaire de comprendre comment elle s'est formée. Croyez-en mon expérience, il est plus facile de détricoter une écharpe quand on a compris comment les mailles étaient montées. La semaine dernière donc, nous avons vu ensemble qu'une habitude se formait par la répétition d'un schéma. Situation, pensée, émotion, action. Ce qui entraîne un résultat. Si vous êtes familier avec mon podcast, vous repérez qu'il s'agit ici de la simple répétition d'un modèle. Et si vous ne connaissez pas le modèle, rendez-vous dans l'épisode 2 pour découvrir de quoi il s'agit et comment le modèle peut transformer votre vie. Plus je répète ce modèle, plus je l'inscris dans ma programmation par défaut. Notre cerveau est ainsi fait. Chaque fois que je reproduis une action, je crée une voie neuronale, c'est-à-dire une connexion qui projette un signal à une région du système nerveux. Certaines voies neuronales contrôlent des aspects de notre comportement et sont nourries, en quelque sorte, par la dopamine. Dopamine dont je vous ai parlé la semaine dernière. Petit shoot de bien-être qui récompense notre action afin de l'inscrire sur le long terme. Pour faire simple, si chaque fois que j'ai mal au crâne, j'avale du paracétamol et que quelques minutes après la douleur s'estompe, mon cerveau fait le lien entre cachet et migraine et grave cette information dans mon cerveau sous la forme d'une voie neuronale. Plus je vais ensuite répéter cette action, plus je vais creuser la voie neuronale qui lui est associée. Plus je vais tricoter, plus je vais améliorer ma technique. Plus je vais m'entraîner à la course à pied, plus je vais avancer rapidement, plus je vais souffler dans une clarinette, plus ma méthode sera précise, etc., etc. Ce qui fonctionne avec l'activité physique et la musique fonctionne avec tout comportement. Chez moi, je sais par exemple que mes voies neuronales de découpe de légumes sont plutôt épaisses. Celles du piano sont non existantes. Quant aux voies de tricot, justement, elles se renforcent chaque jour depuis 6 mois. Imaginez donc la taille des voies neuronales sur lesquelles on passe et repasse plusieurs fois par jour avec un café, une clope, un ongle rongé ou un carré de chocolat après le dîner. C'est normal que vous portiez votre doigt à la bouche chaque fois que vous ressentez un peu d'anxiété. Vous avez pratiqué ce geste pendant des années. Vous n'êtes pas un cas isolé ou encore moins une tare si vous ne pouvez vous empêcher de vous couler un kawa à 10 heures si vous le faites depuis vos 20 ans. Plusieurs études sur la volonté ont montré que cette composante n'était que peu efficace pour mettre fin à une habitude. En effet, ce que les anglophones nomment « willpower » et dont l'ouvrage du même nom écrit par Roy Baumeister m'a régalé, je vous le recommande, est semblable à un muscle. Plus on l'entraîne, plus il grossit. Plus on s'en sert, plus il se fatigue. C'est pourquoi il est plus facile de dire non à un beignet bien gras à 10 heures qu'à 17 heures. La bonne nouvelle, c'est que la volonté n'est pas nécessaire pour se lester d'une habitude, même répétée pendant des années. Souvenez-vous de ce que je vous expliquais plus haut. Boire un café ou un verre d'alcool, fumer une cigarette, manger du saucisson ou une glace industrielle, ou que sais-je encore, est une action dans votre modèle. Et ce que l'on sait, c'est qu'une émotion et une pensée précèdent toute action. Pensée elle-même émise en réaction à un contexte est totalement optionnelle. Une personne qui a horreur de la bière ne saliverait jamais devant une mousse bien fraîche en été. La bière est neutre en soi. Tout comme la cigarette, le vin, le café, vos ongles, une pièce montée, et même une heure de la journée ou un sentiment de fatigue intense. Souvent, nous pensons que si nous aspirons à un demi de blonde, c'est parce qu'il est là, sous notre nez, bien doré et frais. Ou encore parce qu'il est 18h et que c'est l'heure de l'apéro. Ou parce qu'encore on est crevé et qu'on veut juste souffler après le boulot. Non ! La seule raison pour laquelle on a envie d'un apéro, c'est parce qu'on a une pensée qui va dans ce sens, point. Pas parce qu'on est faible, qu'on a toujours kiffé l'alcool et que de toute façon, on a une nature à être accro à quelque chose. Le nombre d'années où j'ai cru ça, j'étais persuadée que de toute façon, j'aurais toujours envie d'un truc, que ce soit une clope, un joint, une bière, un dessert, un cappuccino. La seule raison pour laquelle j'avais soif de quelque chose pour me procurer du plaisir, c'est juste que j'avais des pensées de type « Ah, je veux un second dessert. J'ai mérité un verre de vin. C'est si bon la bière. J'adore fumer une clope en soirée. Oh, un latte au lait de soja maintenant. Waouh, ça serait le pied. » Aujourd'hui, je peux être assise devant une coupe de champagne et une part d'opéra sans même lever un sourcil. Je vous jure. Et sans même ressentir de tension à l'intérieur. Sans résistance, aucune. Juste parce que j'en ai pas envie. Parce que mes voies neuronales qui étaient gonflées à bloc il y a encore 2 ans ont désormais la taille d'une graine de sésame. Toute petite. Parce que j'ai compris que toutes ces substances, aussi bonnes soient-elles en bouche, ne m'apportent qu'un apaisement temporaire. Et c'est frustrant cette éphémérité. Parce qu'il faut alors, pour taire la tristesse, la solitude, le stress, la colère, consommer toujours plus. Je pense, j'en veux, et mon émotion devient désir. De ce désir jaillit une pulsion, celle de boire, manger, fumer. La plupart d'entre nous ne savons pas rester avec ce désir à l'intérieur de nous sans agir dessus. Lorsque l'on ressent une émotion, on peut se soumettre à elle, la résister, ou bien l'autoriser à circuler en nous. Si je ressens de la colère en moi, je peux frapper la table, ou bien me distraire de la colère en espérant qu'elle passe rapidement, ou bien encore la laisser être, la regarder de l'extérieur comme un observateur tranquille, curieux, zen. Face au désir de me jeter sur un morceau de fromage, je peux avaler le fromage, je peux user de ma volonté pour essayer de ne pas y penser, ou bien encore me dire c'est normal que j'ai envie de fromage, parce que c'est la pensée que j'ai en ce moment même. Coucou pensée, coucou émotion, je vous en prie, circulez en moi. Et le penser vraiment, pas en mode « Ok, je vais autoriser cette envie 3 minutes et puis après je passe à autre chose », non. Vraiment chercher à comprendre son émotion, à la regarder, à lui donner une couleur, un nom, lui parler. Sans forcément l'inviter à sa table et lui préparer à dîner, mais avec un certain accueil tout de même. Quand face à une situation survient une pensée et une émotion sur laquelle on n'agit pas directement, on désapprend petit à petit à notre cerveau une habitude. On lui montre qu'une autre réalité est possible pour nous. La voie neuronale se désépaissit peu à peu. Alors certes, elle sera toujours là, elle a été créée après tout. Cependant, elle peut être réduite à un simple fil fin, très très fin, plutôt que de rester un gros ruban. Chaque fois qu'on ressent du désir pour un verre de vin à 18h et qu'on s'assoit sur le canapé à côté de son désir, qu'on le regarde tendrement, sans se siffler un verre derrière, on modifie son conditionnement. C'est ça la plasticité cérébrale. C'est cette faculté que l'on a d'apprendre et de désapprendre à tout âge. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on n'a pas besoin de 30 printemps pour se défaire d'une habitude qu'on a pratiquée pendant 30 ans. Alors je dis pas que c'est facile. Rester paisible avec ses pulsions est un exercice qui demande du courage, mais surtout de la pratique. Après tout, si l'on a mis en place une stratégie, boire, fumer, manger, taper, se curer le nez, faire du sport, etc., pour répondre à une émotion très forte, comme le désir par exemple, c'est qu'on ne sait pas trop rester là avec cette vibration dans son corps. Alors on agit dessus. On a peut-être essayé par le passé d'éloigner l'émotion en se distrayant par exemple, sans succès notoire. Rarement a-t-on autorisé cette vibration à se balader en nous sans lui répondre. Et quid des fois où on a envie de boire une coupette à l'anniversaire de sa sœur, ou de croquer dans un goûter maison, d'apprécier un café à la brûlerie locale, ou même de fumer une cigarette occasionnelle? Eh bien, on se sert de son cerveau préfrontal pour prévoir. On planifie l'action. On se le note. Samedi soir, chez Sabine, je bois 2 verres de vin, 1 à l'apéro et 1 second au dîner. Et on s'y tient. Car ce qui compte au final, ce n'est pas tant de ne pas boire que de ne pas nourrir la voie neuronale, de ne pas agir sur la pulsion, afin de permettre à notre modèle de disparaître peu à peu. Et il disparaîtra peu à peu si vous ne l'entretenez plus. Décider avec notre cerveau le plus évolué, c'est se donner la possibilité de créer la vie que l'on souhaite avoir. Personnellement, je n'ai pas arrêté de boire du café toute ma vie. Je n'ai pas choisi de ne plus jamais goûter à un bon vin. Seulement, je n'aimais pas les raisons pour lesquelles je choisissais de picoler. Je voulais taire une émotion. Je voulais baisser le volume de l'anxiété, amoindrir la fatigue. Et c'était devenu un rituel quotidien. Si je n'ai pas dit adieu à ces boissons que j'apprécie, je note cependant qu'il est bien plus facile pour moi de ne pas entretenir l'idée d'un possible apéritif que de trinquer une fois de temps en temps. Chacun est libre de trancher ensuite pour lui-même. Pour résumer donc, pour se détacher d'une habitude, il faut tout simplement arrêter de la pratiquer. Arrêter de boire de l'alcool ou des sodas, manger plus que nécessaire, tripoter ses doigts, fourrer son index dans son nez, que sais-je encore, et observer son désir, ses pulsions qui s'agitent dans tous les sens sans broncher, sans avoir peur d'être assis, assise là, avec sa nervosité, ses envies qui semblent si fortes et pressantes dans le moment. Juste se regarder à l'intérieur, sans vouloir chercher un état différent, sachant que cette agitation va s'estomper peu à peu. Déconditionner ses réponses automatiques, c'est opter pour l'inconfort de l'instant, quand il s'agit de dire non, plutôt que de la satisfaction immédiate donc. Mais c'est surtout préférer l'inconfort du moment à celui d'un lendemain plus difficile. C'est préférer l'inconfort maintenant plutôt que l'inconfort après. Je le répète, dire non, c'est préférer l'inconfort maintenant plutôt que l'inconfort après, quand on aura récolté les fruits de ce que l'on a semé. C'est également l'opportunité d'apprendre à se connaître, à être bien avec soi-même, à ressentir pleinement ses émotions et à leur donner tout l'espace dont elles ont besoin pour nous aider et à prendre des actions qui nous élèvent. C'est retrouver une certaine liberté, celle de ne dépendre d'aucune source extérieure pour se sentir bien. C'est préférer la joie au plaisir. Eckhart Tolle a écrit « Le plaisir est toujours provoqué par quelque chose d'extérieur à vous, alors que la joie émane de l'intérieur. » Autrement dit, la chose qui vous procure du plaisir aujourd'hui vous fera souffrir demain. Ou bien le plaisir disparaîtra et son absence vous fera souffrir. Je terminerai en soulevant ceci. Si ronger nos ongles est une habitude que l'on peut défaire, les pensées et les émotions stagnantes, immobilisantes, peuvent aussi être des habitudes que l'on peut défaire. La douleur, qui agit similairement à une émotion dans le corps, peut elle-même, des fois, être une habitude que l'on peut défaire. Fascinant, non ? Promis, je vous en reparle dans le prochain numéro. D'ici là, interrogez-vous sur les actions qui vous servent et celles qui vous plombent, puis décidez de celles que vous voulez garder et celles que vous souhaitez jeter. La liberté commence ici. Et c'est tout le travail que l'on fait dans l'accompagnement en ligne que je vous propose vers ma vie. N'hésitez pas à nous rejoindre. Bonne semaine et à bientôt. Si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à encourager cette émission en notant votre ressenti sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. J'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, @auvert avec Lily tout attaché, ainsi que sur mon site internet auvertaveclily.fr. Vous pourrez découvrir les solutions que je vous propose pour vous épanouir pleinement dans votre vie et avancer sereinement sans souffrance. À bientôt!